Vous l'avez lu?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour.
Je peux en prendre combien?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez?
Vous pouvez me le prolonger?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors?
Et c'est l'émission Zeste de Culture du mois de mars qui va démarrer. Et aujourd'hui, on est avec Carmela, Fanny, Patricia, Géraldine. On va parler de romans adultes, de romans jeunesse, de BD, de jeux. Voilà. Et on commence justement par les jeux. Bonjour Patricia.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un jeu enfant, pour enfants, édité par Gigamic, pour 2 à 4 joueurs. À partir de 4 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Donc, des enfants aventureux décident d'escalader un vieil escalier hanté pour y surprendre le vieux fantôme qui vit à l'étage. Mais ce dernier n'est pas tombé de la dernière pluie et réserve une jolie surprise à nos visiteurs. L'escalier hanté, c'est d'abord un jeu de parcours, d'apparence classique, mais qui repose surtout sur un jeu de mémoire. En effet, chaque joueur va progressivement devoir remplacer son jeton de couleur par un jeton anonyme. On va très vite se rendre compte qu'on aura tous à peu près les mêmes pions. Simple et efficace, c'est en effet ainsi que l'on peut qualifier le matériel de l'escalier hanté, car il n'est composé que d'un plateau de jeu, de 4 jetons de couleur, 4 jetons fantômes et un dé. Donc chaque joueur commence à gravir les marches de l'escalier avec un jeton de couleur. Il jette le dé pour effectuer son déplacement. S'il obtient un chiffre, il monte du nombre de cases correspondant. Jusque-là, tout va bien. Mais s'il tombe sur une face spéciale, alors le pouvoir du fantôme se déchaîne. Ce pouvoir, c'est celui de semer la zizanie, tout simplement. Concrètement, le joueur doit recouvrir l'un de ses jetons par un jeton fantôme. S'il désigne par exemple le joueur jaune, le jeton jaune se voit recouvert par un pion fantôme neutre. L'astuce, c'est que les pions fantômes sont en bois creux et possèdent un aimant, de sorte que lorsqu'ils viennent recouvrir les pions de couleur, ces derniers restent collés. Donc rapidement, les 4 pions initiaux des joueurs seront remplacés par des pions fantômes. Et là, vous l'aurez compris, c'est le drame. Parce que si le pion fantôme se déplace tout à fait normalement, rien ne le distingue plus d'un autre pion fantôme. Enfin, si un joueur retombe sur une face spéciale du dé et que tous les joueurs sont déjà transformés en fantômes, alors il peut intervertir 2 fantômes de son choix afin de brouiller les pistes. Il devient vital de ne plus lâcher son fantôme des yeux. Autrement, comment être sûr, en effet, que le pion que vous menez héroïquement à la victoire est bien le vôtre ? Le premier joueur à arriver en haut de l'escalier est donc le vainqueur. Quoique, pas sûr, il doit soulever d'abord son pion fantôme afin de vérifier la couleur du pion. On peut donc faire gagner ses adversaires sans le vouloir. Les enfants adorent. Moi, j'adore aussi. L'escalier hanté, c'est clairement une réussite. En plus, il a été vraiment bardé de titres, dont le Kinderspiel des Jahres, un très fameux prix allemand. Et c'est un jeu qui mérite de figurer dans toute bonne ludothèque familiale. À noter tout de même que la règle prévoit de jouer avec 2 ou 4 joueurs, mais le fun diminue très nettement à 3 ou 2. Voilà, en clair, veillez à vous assurer d'être 4 autour de votre table pour vous lancer à l'assaut de l'escalier. Je vous propose d'écouter Unchained Melody, qui est la bande originale du film Ghost, par The Right House Brothers.
So much, all you see. love, Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Vous écoutez toujours Zeste de Culture, l'émission qui vous parle de culture sous toutes ses formes, et c'est l'émission des médiathèques Chalosse-Tursan. Et puis du coup, on va passer tout de suite avec Géraldine, un roman ado. Et ben, je te laisse nous présenter, Géraldine.
Oui, bonjour Marie. Donc en fait, je vais vous présenter une trilogie aujourd'hui. Et je vais vous présenter Nathalie Bernard, qui est une romancière française. Elle habite la région bordelaise. Nous l'avions reçue dans notre médiathèque dans le cadre du Polar se met au vert pour présenter son roman Keep Up, qui avait d'ailleurs remporté le prix jeunesse à l'époque. Roman passionnant qui fait donc partie d'une trilogie qui nous fait partager les aventures de deux enquêteurs, Valérie Lavigne et son collègue Gauthier. Donc le premier tome de la trilogie, 7 jours pour survivre, nous raconte l'histoire de Nita, une adolescente amérindienne qui est kidnappée à Montréal et qui se réveille dans une cabane perdue au cœur de la forêt canadienne enneigée. Qui l'a amenée ici et pourquoi ? Une chose est sûre, c'est seule qu'elle devra affronter les pires prédateurs. Du côté des enquêteurs, les indices sont rares. Une course contre la montre s'engage, Nita a 7 jours pour survivre. Dans le deuxième tome, Keep Up, cela fait 2 ans que Valérie Lavigne a quitté son poste au sein de la police de Montréal. Trop de pression, trop de souvenirs douloureux. Jusqu'à qu'un soir, à une station-service, elle croise le regard d'une jeune fille. Un regard qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part. Et si ce regard était celui d'un de ses avis de disparition qu'elle étudiait sans relâche dans son ancienne vie. Le tome 3, Dog. Le lieutenant détective Valérie Lavigne a repris du service. Cette fois, elle est sur la trace de 3 jeunes portés disparus. Des ados sans histoire et a priori sans point commun. Si ce n'est une addiction prononcée aux écrans et ce tatouage sur l'avant-bras, 3 lettres gothiques bleu foncé, DOG. En parallèle de cette enquête, nous plongeons avec une de ces ados disparus dans les entrailles de Montréal. Sous la ville serpente des kilomètres de souterrains et certains tunnels oubliés semblent l'endroit rêvé pour dissimuler les dessins les plus tordus.
Chaque enquête est vraiment passionnante. Nathalie Bernard sait nous tenir en haleine tout au long de chaque récit. Franchement, je vous conseille cette trilogie aussi bien aux ados qu'aux adultes. Pour les avoir lu les trois, on reste en haleine jusqu'au bout. Et vous la trouverez à la médiathèque de Agenmou. Alors, Nathalie Bernard a fait d'autres romans, toujours un peu autour du peuple amérindien. Donc, elle a fait aussi Sauvage et le dernier sur la plaine. Voilà, je vous les conseille aussi.
Radio MDM 93.8 avec l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan.
Alors, on va parler maintenant de BD avec Fanny. Fanny, bonjour déjà.
Bonjour.
C'est plutôt une BD pour adultes, hein. C'est Les Pizlis, Jérémy Moreau.
Oui, c'est ça, Les Pizlis de Jérémy Moreau aux éditions Delcourt. Alors déjà, lorsqu'on regarde la couverture, elle est un peu énigmatique. Elle attire l'œil parce qu'elle a des couleurs très vives. On peut voir trois personnes volant dans le ciel au milieu des aurores boréales et d'une constellation en forme d'ours. Donc pour le titre, on se demande ce qu'il veut dire, les Pizlis. Eh bien, en fait, ce serait un mélange d'ours polaires et de grizzlies. Étant donné que les ours polaires descendent plus au sud à cause de la fonte des glaces, ils rencontrent les grizzlies et s'accouplent avec eux. Et ce serait en fait une des premières espèces hybrides engendrées par le réchauffement climatique. Voilà, donc cette couverture représente bien l'atmosphère du livre, les dessins sont un peu psychédéliques et l'histoire est très belle et poétique. Dans cette BD, on découvre Nathan, un jeune homme chauffeur de Uber, qui subit un peu la vie parisienne et s'occupe de son frère et sa sœur, Zoé et Étienne, car ils ont perdu leur mère peu de temps auparavant. Ce jeune chauffeur, il est un peu submergé par le rythme de vie citadine, par son travail, il n'arrive pas à se débrouiller sans GPS. Et il a du mal à se détacher de son téléphone. Et en fait, il développe des troubles de l'orientation à cause de ça. Donc il ne prend pas vraiment le temps de se reposer et travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de son frère et sa sœur. Et par conséquent, il est à la limite du burn-out. Zoé et Étienne, eux, sont tout le temps pendus sur leur téléphone, leur console, un peu comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Puis un jour, Nathan fait la connaissance d'Annie, qu'il doit conduire à l'aéroport afin qu'elle revienne dans ses terres natales en Alaska. Sur le chemin de l'aéroport, son GPS ne fonctionne plus, ils paniquent et ils ont un accident de voiture. Suite à cela, Annie propose à Nathan de l'accompagner en Alaska, avec son frère et sa sœur, pour découvrir un mode de vie un peu plus simple et serein, dans une cabane au beau milieu de la nature. Dans l'espoir de se recentrer un peu, se déconnecter du virtuel et de la technologie. Dans la BD, le rapport à la nature est très présent, on observe le mode de vie des natifs d'Alaska. Donc dans le livre, Annie revient sur ses terres natales 40 ans après, sans y avoir jamais remis les pieds avant. Elle se rend compte des changements dus au réchauffement climatique, elle ne s'y retrouve plus, les saisons ont changé et le cycle naturel des choses n'est plus respecté. Il y a une réelle confrontation avec le monde actuel qui nous entoure, des questionnements, comment s'adapter à ce dérèglement climatique, est-ce que la nature s'adapte, est-ce qu'il faudrait revenir à l'essentiel, à un mode de vie plus proche de celui des peuples autochtones. On se rend compte que dans cette BD, c'est un peu un conte écologique, c'est une ode à la nature. Et d'ailleurs, Annie dit dans un passage « Votre homme a marché sur la Lune, mais il ne sait plus habiter la Terre ». Cette phrase résume bien l'ouvrage et également le monde dans lequel on vit. C'est un parcours initiatique pour les personnages du livre. Ceux-ci sont en mutation, comme la nature avec l'exemple du Pizli. Il y a aussi dans ce roman graphique tout un côté spirituel, on y découvre l'univers ancestral des Amérindiens et l'importance qu'ils y accordent, et nos trois Français y plongent peu à peu dedans. Les rêves aussi ont une place importante dans l'histoire, c'est comme si ceux-ci guidaient les personnages tout au long de la BD. Si bien qu'à certains moments, on ne distingue plus trop la différence entre mythe et réalité, et cela donne une dimension un peu magique au livre. Les couleurs sont aussi très belles, très flashy, presque même fluo, mais sans faire mal aux yeux. Et les images sont très contemplatives, on admire la beauté des paysages d'Alaska. Pour conclure, c'est un très beau roman graphique, très agréable à lire et à regarder. Il emmène vraiment à la réflexion et devrait être lu par le plus grand nombre. Et donc vous pourrez l'emprunter à la médiathèque d'Agetmont.
Once upon a time, at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the truth of the eyes, the happy folk were blind.
Falling out of aeroplanes and hiding out in holes, waiting for the sunset to come, people going home. Jump out from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing, the dance of the dead, the dance of the dead, the dance of the dead.
In time, strange folk found their way into the higher reaches of the mountain, and it was there that they found the caves of unimaginable sincerity and beauty. By chance, they stumbled upon the place where all good souls come to rest. The strange folk, they coveted the jewels in these caves above all things, and soon they began to mine the mountain, its rich scene fueling the chaos of their own world. Meanwhile, down in the town, the happy folks slept restlessly, their dreams invaded by shadowy figures digging away at their souls. Every day, people would wake and stare at the mountain. Why was it bringing darkness into their lives? And as the strange folk mined deeper and deeper into the mountain, holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind that chilled the very soul of the monkey. For the first time, the happy folk felt fearful, for they knew that soon the monkey would stir from its deep sleep. Then there came a sound, distant first, that grew into cacophony, so immense that it could be heard far away in space. There were no screams. There was no time. The mountain called Monkey had spoken.
There was only fire, and then nothing.
Oh, a little town in the USA, time has come to see. There's nothing you believe you want. But where were you when it all came down on me? Did you call me out?
On l'a pas dit, mais on est à la médiathèque de Saint-Mandé et c'est là où tu travailles, Carmela, un peu.
Oui, tout à fait. La médiathèque de Saint-Mandé est ouverte les mardis, mercredis et vendredis.
Voilà, d'après ce que j'ai compris, tu travailles et à Saint-Mandé et à Jaune.
Oui, on fait en alternance.
D'accord.
Voilà, quand c'est pas ouvert à Saint-Mandé, c'est ouvert à Jaune.
Et donc là, aujourd'hui, pour l'enregistrement, c'est pas ouvert. Donc tu vas nous parler de ton coup de cœur du mois de mars qui est...
Olivier Adam. Dessous les roses, aux éditions Flammarion. 247 pages. Voilà.
Oh, ça va.
Oui, ça va. Un livre, et puis une fois qu'on a mis le nez dedans, voilà, on ne le lâche pas. Donc c'est l'histoire de deux frères et une sœur. Trois vies désormais étrangères les unes aux autres. N'ayant comme point commun de ralliement que les souvenirs d'enfance. La fille aînée, Claire, a toujours été un modèle travaillant à l'école pour être infirmière. Dévouée aux autres, sans se plaindre, mariée, mère de deux adolescents en pleine révolution, et un mari à peine plus mature. Le Benjamin, Antoine, a poussé sans problème et a réussi ses études et son travail, même si sa vie n'est pas aussi enthousiasmante qu'il l'aurait souhaité. Notamment côté cœur, car il semble toujours amoureux de sa première petite amie et ne parvient pas à construire une vraie relation. Le cadet, Paul, est donc l'artiste de la famille et il ne se rend pas compte, dit-il, des ravages produits par ses créations artistiques sur la famille. Pour lui, c'est de la création, une œuvre d'art. Non seulement il règle ses comptes avec sa famille, mais aussi en bon parisien, avec son village, n'hésitant pas cependant à plonger dans la satire sociale quand cela peut lui rapporter une bonne notoriété. Donc le papa, Eric Sen, est mort et on l'enterre demain. Claire, Antoine et le frère prodigue, Paul se retrouve chez leur mère. L'occasion de remettre les pendules à l'heure avec la famille et soi-même. Et à partir de là, tout est possible. Les préjugés, les perceptions erronées qui donneront lieu à des mésententes douloureuses. Olivier Adam revient dans son dernier opus avec un sujet très intime qui soulève de multiples questions entre frères et sœurs avec le passage à l'âge adulte et aux vies individuelles qui suivent chacun leur propre cours. On n'a jamais les mêmes souvenirs, et au fil du temps, chacun arrange les choses à sa sauce. La distance s'accroît, et les mots plutôt que « rapprocher », gommer un malentendu, au contraire, peuvent ne cesser de souffler sur les braises. D'une part, une fratrie qui se déchire, et de l'autre une mère, pour qui ne restent que les trois enfants. Trois adultes qui désormais se soucient très peu d'elle, alors qu'elle subit le destin inévitable que nous réserve la vie, la vieillesse et la solitude. En lisant ce livre, j'avais peur d'être déçue. Mais non, cet auteur répond toujours présent à l'appel de sa prose, dont j'aime la simplicité à exprimer les sentiments les plus intimes, sans tomber dans le pathos. Même si l'histoire ici est plus lisse par rapport à ses livres précédents, il se rattrape vers la fin, en donnant la parole pour la première et dernière fois à Paul, le fils prodigue, par où est arrivé tous les malheurs, terminant avec une fin excellente. Olivier Adam, qui finalement nous laisse dubitatif sans savoir que penser de ses trois frères et sœurs qui se retrouvent sur un pied d'égalité. Qui a vrai, qui a faux, nul ne peut en convenir. Et c'est l'intérêt de ce livre où Adam souligne très bien l'ambiguïté de la nature humaine. Donc c'est un livre que vous retrouverez à la médiathèque de Jaune.
Et merci, on vous rappelle les médiathèques Agetmo, Jaune, Saint-Mandé, aujourd'hui étaient là. Et merci à toutes. Et on va écouter tout de suite, pour finir cette émission, Cœur de pirate, on s'aimera toujours.
We'll be right back. J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'ai éclipsé ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée. Mais tant qu'il n'y aura que nos souffles qui pensent mes blessures, je faisais bien à toi. Et sous ces lumières écarlates, on s'aimera toujours, je crois. Et je sens mon cœur s'étendre quand mes yeux se fondent au vert des tiens. Si le passé nous secoue, tu sais, c'est qu'on pense au long. Ensemble une dernière fois, c'est comme si on se connaissait. Et nos histoires reprennent leurs ébats. Qu'importe ce qu'on dit de nous, on vit à deux ce que l'on ne sait pas. En image on dit adieu, on vit dans ce que l'on ne connaît pas. Mais tant qu'il n'y aura que je faisais bien à toi. Et sous ces lumières écarlates, on s'aimera toujours, je crois. Et je sens mon cœur s'étendre quand mes yeux se fondent au vert des tiens. Si le passé nous secoue, tu sais, c'est qu'on pense au long.
Est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour.
Je peux en prendre combien?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez?
Vous pouvez me le prolonger?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors?